Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Libre Propos, l'émission de Radio Rancière hebdomadaire qui vous permet d'entendre la parole de notre évêque sur d'importants sujets d'église, de société, religieux ou pas. Aujourd'hui, eh bien, nous allons commencer, bonjour Monseigneur.
Bonjour Christophe.
Par évoquer la journée mondiale de la prière, de prière pour les vocations, pardon, le 30 avril prochain. Pouvez-vous nous rappeler ce qu'est la journée mondiale de prière pour les vocations ?
Dans l'Église, on a beaucoup de fidèles qui sont majoritairement des laïcs et souvent mariés, souvent en famille. Parfois célibataires aussi, bien sûr, et des personnes qui se consacrent dans le célibat pour le royaume. Ça peut être des laïcs dans le monde, mais consacrés, donc qui ne se marient pas. Ça peut être des personnes qui sont religieux ou religieuses, donc qui appartiennent à une congrégation religieuse qui a une règle qui sert à l'éducation ou qui peut servir aux soins des pauvres, par exemple. Et puis il y a tous les prêtres qui sont principalement... les consacrés qu'on peut voir dans les paroisses, ceux qui animent nos paroisses, nos églises. Et donc cette journée annuelle, elle a comme finalité de proposer à tous les chrétiens, tous les catholiques, de prier intensément, de prendre du temps pour ça. Ça peut être une prière qu'on peut faire en communauté, ça peut être personnel, chez soi, ou dans une maison de retraite, par exemple. Et vraiment demander au Seigneur la grâce d'avoir des jeunes hommes, des jeunes femmes qui consacrent leur vie dans le célibat pour le royaume comme signe de l'amour de Dieu. Vous voyez, le signe que l'amour de Dieu est tellement grand qu'on peut vouer sa vie entièrement, y compris dans sa dimension physique, sexuelle, et même familiale. On peut la vouer à Dieu en choisissant le célibat pour le royaume et être témoin d'un amour beaucoup plus grand encore que l'amour humain, qui est digne, mais qui est humain.
Finalement, c'est le témoignage de la dimension, vous allez dire que j'y vais fort, surnaturelle de l'homme, finalement du destin surnaturel de l'homme,
c'est ça,
ou supraterrestre, on va dire, dans la personne du prêtre.
Dans la compréhension de la nature humaine, telle que nous la voyons d'abord pratiquement, physiquement, et aussi dans la révélation chrétienne, l'Écriture sainte, on voit que l'homme et la femme sont créés d'égale dignité, pour s'unir, pour leur joie et pour procréer, ça c'est le mariage. Mais il y a une vocation qui est surnaturelle, donc qui ne néglige pas la dimension naturelle, qui ne la juge pas comme inférieure, mais pour des personnes qui choisissent cette union à Dieu, qui est donc surnaturelle et qui en témoigne dans le monde.
Ouais. Alors, on peut prier pour les vocations, néanmoins il faut que la personne ressente ce qu'on appelle... l'appel, il y a de nombreux témoignages. Comment le ressent-on
Quand on interroge des prêtres, par exemple, ou des religieux, c'est très très différent. Il y a ceux qui ont un appel très tôt, dans leur enfance, 6, 7, 8 ans, 10 ans, ils se disent « plus tard, je consacrerai ma vie à Dieu entièrement, je serai prêtre, je serai religieux, religieuse ». Et puis qui laissent grandir l'appel à l'adolescence, qui est souvent une époque un peu de remise en cause de cet appel, mais en même temps c'est nécessaire pour l'approfondir, pour l'ancrer dans la prière, pour se déterminer librement, car l'appel n'oblige pas. L'appel peut être entendu aussi par une parole de l'Écriture qui un jour nous surprend, nous suscite en nous un questionnement, voire une décision profonde. Ça peut être reçu par un tiers, quelqu'un qui un jour vous interroge, as-tu pensé à ta vie à venir ? As-tu pensé à consacrer ta vie à Dieu ou pas ? Bien sûr qu'il faut le faire sans manipuler les gens, sans les contraindre d'une façon ou d'une autre. Il n'y a pas de séduction. Par exemple, dans cet appel, il y a une interrogation qui rejoint le cœur et l'intelligence de la personne. Ça peut être aussi un ressenti intérieur devant une détresse, devant... un besoin dans le monde, par exemple, quand quelqu'un fait l'expérience de la pauvreté, il peut se dire « moi je vais consacrer ma vie à répondre aux besoins de ces gens-là, et je vais consacrer ma vie dans le célibat pour être totalement à Dieu et totalement auprès d'eux ». Et donc on voit des gens qui ont un appel assez différent. Ce qui importe, c'est qu'ils soient accompagnés par des personnes de bon discernement, qu'on prenne le temps. Et un jour que la personne se situe en disant « je décide de répondre à cet appel et j'engage ma vie dans ce célibat dans telle direction.
Ouais. Alors, oui, évidemment, il y a un temps de, finalement, de probation, enfin, de discernement entre l'appel et puis l'entrée au séminaire. Hein, l'Église est vigilante aussi pour...
Alors, pour ceux qui sont religieux, religieuses, il y a un temps de regardant, comme on dit, puis un noviciat, avant de faire des vœux qui sont toujours temporaires, avant de faire des vœux définitifs, qui sont souvent au bout de 10 ou 12 ans de vie religieuse. Pour les prêtres, il y a une année, on dit propédeutique, donc une année qui permet de vivre en équipe avec des prêtres et des laïcs qui accompagnent cette année-là, de travailler la parole de Dieu, d'avoir quelques formations théologiques et philosophiques, quelques expériences aussi d'engagement, par exemple auprès de pauvres, auprès de personnes ayant un handicap. Et au terme de cette année propédeutique, la personne elle-même confirme son désir d'aller au séminaire. L'équipe de cette maison aussi confirme qu'elle valide la demande d'entrer au séminaire, parce que chacun est libre, la personne est libre d'arrêter ou de continuer. L'équipe du séminaire est aussi libre de continuer ou de dire à la personne d'arrêter.
Alors les prêtres, on va continuer d'en parler parce qu'il y a les nominations qui ont été annoncées pour septembre prochain au sein du diocèse de Chartres. Et je me suis posé la question, comment finalement l'évêque choisit-il telle affectation pour tel ou tel prêtre, en fonction de quels critères finalement ?
Alors, c'est une très bonne question. Donc c'est pas hasardeux. Hein. D'abord nous prions. Alors on prie qui prie ? Ben moi comme évêque bien sûr je prie pour ça, mais aussi mon conseil épiscopal qui est formé de prêtres, d'un diacre permanent et de laïcs, 4 laïcs dont 3 femmes d'ailleurs, toutes mariées. Donc il y a un sens de, j'apprécie beaucoup leur regard parce qu'il y a du bon sens. Tout à fait, du bon sens qui s'est confronté au réel de la vie, quoi. Des mères de famille qui ont des enfants, qui ont un époux, qui ont un travail, perçoivent beaucoup de réalité avec finesse. Donc, on prend en général 2 ou 3 mois. Ça commence souvent vers le mois d'octobre, novembre, en se disant, il y aura telle paroisse dont le curé va ou partir en retraite, ou il veut faire un autre parcours pour différentes raisons. Je pense au père Jean-Marie Liult, par exemple, qui a souhaité, il y a 2 ans, développer un projet de permaculture et d'insertion de jeunes. Donc, il a arrêté sa charge curiale. Il fallait donc un remplaçant. Il y a ceux qui arrivent aussi, non pas sur le marché du travail, mais presque. Hein, notamment, je pense à Clément Pierson, qui achève sa formation à Rome et qui sera donc en ministère dans le département en septembre. Donc on voit un peu les mouvements nécessaires, et puis on essaie de réfléchir à par exemple pour un jeune prêtre, je pense à Clément encore, qui sera son curé, quel curé le prendra en charge. C'est important que un jeune prêtre soit bien accompagné dans ses premières années de ministère. On regarde les missions, notamment y a-t-il des collèges, des lycées à accompagner, quelle figure de prêtre sera la bienvenue. On pense aussi à certains qui ont un ministère depuis quelques années, mais qui doivent passer une étape nouvelle pour se former, parce que leur maturité a grandi et qu'ils peuvent affronter peut-être une charge de curé, par exemple. Donc tout ça, c'est une série d'ingrédients. Après ça, bien sûr, on va voir les prêtres en question. On les écoute, on leur demande quels seront leurs rêves, comment est-ce qu'ils envisagent leur avenir, est-ce que certains voudraient faire d'autres études en complémentaire, et on tient compte un peu de tout ça pour trouver les meilleures répartitions, on peut dire. Et après que chacun a été interrogé, ceux qui sont en place, ceux qui ont mission de discerner, on finit par dire au prêtre, voilà, c'est la proposition que l'on vous fait, êtes-vous d'accord ? Et le prêtre, bien sûr, doit répondre à cette demande librement.
Oui. Ça suppose aussi, comment dire, une intimité entre le prêtre et l'évêque. L'évêque doit être toujours à l'écoute du prêtre, prêt à lui donner des conseils, à répondre à ses doutes. Entre fraternité et hiérarchie, quel genre de rapport finalement l'évêque entretient-il avec ses prêtres ?
C'est vrai que l'évêque est l'apôtre dans son diocèse, donc il est hiérarchiquement le responsable et le supérieur, et que chaque prêtre, et que je l'ai fait quand j'étais nommé prêtre, promet obéissance à son évêque et à ses successeurs. Donc il y a une obéissance au sens propre du terme obéissance, c'est-à-dire une écoute. Hein. Alors après, je ne parlerai pas d'intimité, parce que l'intimité c'est un mot très fort, je parlerai de relations fraternelles que l'on essaie de cultiver. En même temps, je vois bien que la demande des prêtres est différente. Certains sont heureux de me rencontrer assez souvent, me demandent des rendez-vous. D'autres, on sent qu'ils sont assez autonomes. Mais j'essaie de les visiter, de les appeler en tout cas, pour un anniversaire, pour un événement. Et c'est au cours aussi de ces moments-là qu'on peut dire que cette relation s'approfondit de confiance, d'écoute du besoin, des possibilités ou des limites aussi de chacun pour pouvoir, comme on dit, faire que cet équipage, en fait, j'aime beaucoup l'image d'un équipage d'un voilier, ou d'un gros voilier, à l'époque de la marine à voile, par exemple, eh bien, il faut que l'équipage donne le meilleur de lui-même, que chacun trouve sa bonne place. On n'a pas les mêmes talents, pas les mêmes capacités non plus. Je pense que chacun a sa place, il faut la trouver.
Je reviens pour finir au dernier message fraternel. Le Christ est ressuscité d'entre les morts, dites-vous. Et en France, 5486 adultes ont été baptisés durant la vigile pascale. C'est assez exceptionnel, 28% de plus que les années précédentes. C'est spectaculaire et ça a probablement forcément un sens.
Oui, non, c'est sûr. Alors, on peut toujours analyser un peu sociologiquement. C'est vrai que on arrive à des générations de jeunes adultes qui n'ont pas été baptisés pour une grande partie d'entre eux. Donc, on peut penser qu'il y a plus de candidats, entre guillemets. Mais ça marche pas comme ça. Ça marche. Enfin, ce qui se passe, c'est que il me semble que beaucoup de gens, quand même, s'interrogent sur le sens de la vie. Le monde actuel est un véritable charivari compliqué. La pandémie a bouleversé beaucoup la vision qu'on a de la société, du monde et notre propre besoin intérieur. Beaucoup de gens se remettent en cause, même pour le travail professionnel. On voit arriver des gens qui nous disent, moi j'ai une jeune femme qui m'a écrit, je ne connaissais pas, je n'étais pas chrétienne, mais je cherchais la paix et la bienveillance et j'ai vite compris que c'est dans l'Église catholique que je vais trouver ça. Et donc, elle est venue vers le baptême pour ça. D'autres, c'est le témoignage d'amis. Mais profondément, c'est la figure du Christ. Jésus-Christ, lui qui est homme, mais qui est Dieu fait homme, qui est le Fils de Dieu divin, venu parmi nous, qui est mort et ressuscité, et qui nous donne la vie, le salut et la vie éternelle, surtout la foi. Et quand ces adultes découvrent que la foi est donnée au baptême et que la foi, c'est le chemin de la vie éternelle, que la vie éternelle est donnée, alors il y a comme une sorte d'apaisement dans le cœur, aussi par rapport à cette grande question qu'est la mort. Qu'est-ce qui se passe à la mort? Qu'est-ce qu'on devient? Est-ce qu'il y a une vie après la mort? Et aussi, est-ce que je peux être sauvé? Parce que chacun constate qu'il est pécheur, qu'il fait le mal quand il voudrait faire le bien. Et il peut se dire, mais je vais être condamné, moi, après, je ne serai pas sauvé. Eh bien, si, quand on découvre la parole de Dieu, quand on découvre que l'amour bannit la crainte, que le Seigneur vient donner sa vie pour nous, alors, d'un seul coup, s'ouvre une perspective heureuse. Ça n'enlève pas la dureté de la vie et ses épreuves, mais ça permet de la traverser différemment. Et avec un cœur léger, parce qu'on n'est plus seul. Le Christ est une personne vivante. On ne court pas après une morale ou une praxis, entre guillemets. On suit quelqu'un et on marche avec lui. Donc c'est ça que les gens trouvent. Il faut bien sûr les accompagner, il ne faut pas les lâcher. Ils ont à découvrir une communauté chrétienne et on essaie de répondre à cet appel.
Marchons le cœur léger. Merci beaucoup, Monseigneur. Chers auditeurs et auditrices, vous pourrez réécouter cette émission sur notre site www.radiorancial.fr. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Libre Propos.